Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante et active, et on veut soumettre nos cœurs à ta parole cet après-midi. Viens parler, Seigneur, au plus profond de nos cœurs. Et viens bâtir ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Équipé pour une vie abondante. Le voleur, Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Et c'est véritablement, les amis, la volonté de Dieu pour chacun de nous qu'on ait la vie en abondance. Et parfois, le chemin pour cette vie abondante est surprenant. Donc, on va lire un texte de Luc, chapitre 14, du verset 25 à 33. C'est un texte qui peut paraître lourd, mais restez avec moi pour un petit moment. Et j'aimerais faire quelques remarques sur ce texte, et j'espère qu'à la fin, on aura un moment pour prier ensemble. De grandes foules faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut venir à ma suite. Pour venir à ma suite, ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se moquent pas et ne disent « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever. » Ou bien quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. » Alors c'est un passage qui est difficile, n'est-ce pas? Quand on l'entend, on dit « Waouh, le Seigneur demande beaucoup de nous. » Et en lisant ça, vous peut-être que vous pensez « Waouh, cette session sera lourde, il va nous dire de donner plus, de sacrifier plus, de porter la croix encore plus. Et déjà, je galère. » Mais je ne pense pas que c'est l'intention de Jésus, ici, qui veut nous dire « porte plus, pousse plus, éreinte-toi, fais un effort super humain, épuise-toi. » Je ne pense pas que c'est la volonté de Jésus. Et donc, j'aimerais juste faire quelques commentaires sur ce texte. Au fait, le cœur de Jésus, on le voit dans un autre passage, le cœur de Jésus, il a dit à tous ceux qui sont fatigués et qui portent une lourde charge, « Venez à moi. » Et au fait, j'aime bien la traduction de la Bible du Semeur qui dit « Inscrivez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur, et ma charge est légère, et mon joug est léger. » Non, un truc comme ça. My yoke is easy and my burden is light. Mon joug est facile, ma charge est légère. Et au fait, comment réconcilier le passage qu'on vient de lire? Porte ta croix, renonce à tous tes biens, déteste même ta famille. Et Jésus qui nous dit, au fait, ma charge est légère. Il y a une jeune fille qui me racontait récemment qu'elle parlait de Dieu à une amie au lycée. Et son ami lui dit, « Moi, je suis mon propre Dieu. » Et quelle honnêteté, non? Quelle honnêteté. Moi, je dis, « Waouh, c'est fort. Au moins, elle est honnête. » Nous, les chrétiens, on ne ment pas. On ne dit pas de mensonges, on les chante. Pardon. « Je te donne mon cœur, je te donne tout. » mais touche pas à mon temps ou à mon porte-monnaie. Mais j'aime bien cette honnêteté. Moi, je suis mon propre Dieu. Et si on est honnête, parfois on a tendance à vivre comme ça, même en tant que chrétien. On pense savoir mieux. On ne veut pas renoncer à nos propres voies pour suivre les voies de Dieu. Et on veut une vie abondante, mais Jésus nous dit « renonce à ta vie » et ça paraît contre-intuitif. Alors, juste quelques points pratiques qui me sont venus à cœur pour cet après-midi. La première, c'est notre émerveillement de Jésus. Je sais que j'en ai déjà parlé ce matin, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'éloigner de ce point. Et lorsque Jésus parle de détester sa propre vie, je ne pense pas que c'est littéral. Au fait, il exagère un point pour illustrer un propos. Il ne parle pas véritablement de détester. Au fait, il ne veut pas qu'on déteste nos amis, notre famille, nos enfants, même notre propre chair. Simplement, il veut nous montrer que Dieu, il est tellement plus glorieux que tout ce qu'il y a dans ce monde, que toutes ces choses à la face de la lumière de Dieu va pâlir. Et je crois que c'est ça qui Jésus voulait attirer notre attention. Au fait, on sert un Dieu qui est glorieux. Et quand on est dans sa présence, comme on a fait cet après-midi, c'est glorieux, les amis. C'est vraiment, c'est fantastique, il n'y a rien de mieux. Et David a dit, mieux vaut 1000 jours dans tes parvis. Non, un jour dans tes parvis. Je teste votre théologie. C'est bon, Stuart, ils ont passé le test. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Et c'est ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu. Toutes les choses de ce monde peuvent pâlir. Il y a Simon Sinek qui a donné un discours très populaire, un TED Talk. Et puis il a écrit un livre qui s'appelle « Commence avec le pourquoi ». Et c'est vrai, quand on comprend le pourquoi, on est prêt à s'investir et à payer le prix. Ça nous oriente notre chemin. Et un de mes amis a dit, il a poussé ça un peu plus loin, il a dit, on perd notre chemin quand on perd notre pourquoi. Quand on oublie notre vision, la vision, quand on perd notre pourquoi, on perd notre chemin. Mais il est allé plus loin, il a dit, au fait, on perd notre pourquoi lorsqu'on perd notre émerveillement. Et lorsqu'on perd notre émerveillement de Jésus, on oublie pourquoi on fait ce qu'on fait et on perd notre chemin. Et on doit à chaque fois, les amis, retourner à l'émerveillement de Jésus-Christ. Vous savez, l'Église ne sera pas la réponse qu'il vous faut. L'Église est tout à fait le plan de Dieu et il y a des choses surnaturelles qui se passent. Mais c'est Jésus la réponse. Et Jésus œuvre au sein de l'Église. On dit souvent, parfois les gens ont été blessés à l'Église. Je dis, mais au fait, la seule réponse, le seul qui est fidèle, qui ne faillira jamais, c'est Jésus-Christ. Donc tournons-nous vers lui, encore et encore et encore, alors que nous construisons avec lui, alors qu'il construit notre Église, qu'on soit constamment émerveillés par Jésus. Et comment est ton émerveillement de Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il « take your breath away » comme on dit en anglais, est-ce qu'il t'époustoufle? L'apôtre Paul était captivé par Jésus-Christ, plus que par l'Église, plus que par la mission. Sa passion était Jésus et tout découlait de là. Dans Colossiens 1, il nous dit « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. C'est en lui que tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. C'est en Jésus-Christ, les amis, que tout se tient. Parfois, on a l'impression que nos vies vont... C'est tellement chaotique parfois. On dit, on regarde au Seigneur, c'est toi, c'est en toi que tout se tient. Romains 11, 36 nous dit, tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. Amen. Et donc, quand on lit ça, on voit que tout est en lui, tout est par lui, tout est de lui, tout est pour lui. Nous sommes simplement, les amis, des intendants de ce qui nous a été confié pour une saison. Jésus-Christ doit captiver notre affection, notre attention. Donc la connaissance du Christ est personnelle. Dieu veut se faire connaître, il veut avoir une relation personnelle avec toi. Pas que les dimanches, mais tous les jours. C'est comment va ta dévotion personnelle avec Dieu de jour en jour. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit de mettre le mode avion parfois, de couper les bruits, de dire « Seigneur, je veux juste un tête-à-tête avec toi. Je veux juste un temps avec toi. » La connaissance du Christ est biblique et intelligente. Je dois le connaître, non pas comme j'en rêve, ou selon la culture de notre temps, mais tel que la parole de Dieu le révèle. Je dois connaître sa nature divine, sa nature humaine. Je dois connaître ses fonctions, ses attributs, ses œuvres, sa puissance, son autorité, sa gloire. Notre connaissance de Jésus doit être affectueuse. Le connaître, c'est l'aimer. Avec tout ce qu'on a, le plus grand des commandements, aime Dieu avec tout ce que tu as. La connaissance de Jésus est satisfaisante. Lui seul peut nous satisfaire. Il est le pain de vie. Il est l'eau vive, la source d'eau vive. La connaissance de Jésus est passionnante. C'est excitante dans la signification anglo-saxonne du terme. Ça, c'est passionnant. Le plus on le connaît, le plus on a envie de le connaître. Et le plus on veut le suivre. Et les amis, ce texte qu'on vient de lire ne parle pas de faire plus, mais parle d'être continuellement émerveillé par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul mérite toute notre attention. La deuxième chose que je souhaite partager, c'est notre volonté à sacrifier. Et suivre Jésus va forcément impliquer un sacrifice, va forcément impliquer un renoncement. Il y a toujours un coût à suivre Jésus. Et vous savez, parfois on estime trop facilement le coût de suivre Jésus, c'est plus facile à calculer. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi un coût à ne pas suivre Jésus? Et si on cherche cette vie abondante, au fait, quand on dit non à des choses qu'il nous appelle à faire et qu'on doit sacrifier, on doit donner, on renonce quelque part à une part de cette vie abondante. Et donc le coût de dire non à Jésus est beaucoup plus élevé que de dire oui. Quelques personnes m'ont demandé, alors, mais vous êtes combien aujourd'hui à l'église? Parce que vous avez parlé de 12, de 9, de 5. Alors, au fait, notre église était arrivée à peu près à 120 personnes à un moment. Et c'est là qu'on a eu ce projet de bâtiment qui est venu sur notre chemin. Et je savais que si on disait oui à ce projet de bâtiment, ça allait nous coûter beaucoup, en fait. Et je me dis, mais ça va tellement nous coûter qu'on risque de tout perdre. Et je faisais vraiment bataille avec ça. On a prié, on a jeûné pendant 3 ou 4 mois. On a vraiment cherché la volonté du Seigneur dedans. Et on ressentait un oui, allez-y. Mais je faisais bataille avec ça. Je dis, Seigneur, ce qu'on a aujourd'hui est tellement bien. On a 120 personnes, ça se passe bien. On est une église en bonne santé. On a un local qui est OK. Et un jour, je me rappelle, j'appelle un ami. Je dis, écoute, vraiment, est-ce que tu penses qu'on doit y aller? Il m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Je dis, oui, je ressens que Dieu a dit oui, mais tu sais qu'on risque de tout perdre. Ça va nous coûter beaucoup. Il me dit, oui, mais qu'est-ce que Abraham a fait quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac? Et parfois, Dieu va nous demander ça. On ne comprend pas pourquoi, mais on n'aurait pas eu la révélation aujourd'hui que Dieu est un Dieu qui pourvoit sans l'obéissance d'Abraham. Et les amis, parfois on doit être prêt à lâcher prise avec le bon qu'on a pour le meilleur que Dieu veut nous donner. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, on est à peu près 200-250 dans ces eaux-là. Par la gloire de Dieu, on est émerveillé. Il y a quelqu'un qui a dit, ne considérerions-nous pas un privilège si un roi terrestre nous envoie comme ambassadeur? Alors pourquoi nous considérons comme un coup quand le roi céleste nous envoie? Et les amis, il y a un coup, on ne peut pas ignorer. Ça coûte énormément. Je sais qu'il y a énormément de sacrifices, il y a du temps, il y a de l'argent. Il y a des relations, c'est coûteux. On sait, on a implanté une église, notre famille a vécu ça, nos enfants ont vécu ça. Mais est-ce que le privilège est plus grand que le coût? Ou est-ce que vous voyez le coût comme étant plus grand que le privilège? Et moi je pense que quand on est émerveillé de Jésus, on va dire oui Seigneur, c'est un privilège. Et on va être comme notre cher président qui dit quoi qu'il en coûte. Vanessa et moi, on était jeunes mariés. On était mariés depuis 2 ou 3 mois. On avait très peu de meubles chez nous. On avait une table de camping, c'était notre table à salle à manger. On avait un canapé, on avait une télé quand même, parce qu'il faut. On n'avait même pas de rideau pour nos fenêtres. Et on est parti visiter un ami qui lui aussi venait de se marier. Et lui, il avait équipé toute sa maison de meubles super classe. Et je suis rentré dedans, je dis « Waouh, c'est trop beau !» Et j'étais un peu jaloux en fait. Et je n'ai pas partagé ça à Vanessa, mais sur le chemin du retour, j'ai calculé combien de mois de dîmes on peut retenir pour acheter tout ça. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Donc je ne sais pas ce que vous pratiquez ici, donc je soumets tout ce que je dis aux anciens. Et donc sur le chemin, je dis, mais combien de mois de données à l'église, de dîmes, on peut retenir, comme ça on pourra s'acheter tous ces meubles. Et en rentrant à la maison, comme je rentre à la maison, j'entends cette voix qui dit « Mais je ne t'ai pas appelé à servir du bois. » Du bois, des meubles. Je t'ai appelé à me servir le Dieu vivant. Et le lendemain matin, j'ai appelé Vanessa, j'ai confessé. J'ai dit « Écoute, j'étais tenté, j'avais tout calculé. C'était genre 5 ou 6 mois, on aurait pu tout avoir. » Et après, on peut recommencer à donner. Mais Dieu ne nous a pas appelés à servir du bois ou des briques. Et donc, je dis, je ne veux pas que l'argent prenne l'emprise de mon cœur. Donc, ce mois-ci, je pense qu'il faut doubler ce qu'on va donner. Et c'est ce qu'on a fait. Mais parfois, il faut se faire violence, les amis. Quand le matérialisme veut prendre le dessus, je dis, pas question. Je veux. OK ? Notre volonté à sacrifier. Là, vous savez que la vie abondante se trouve dedans. Troisièmement, notre motivation. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et une des paroles qui nous est venue au début de notre projet de bâtiment, c'est le psaume 115, verset 1, qui dit « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta fidélité, à cause de ta loyauté. » Et les amis, ça doit être le cri de notre cœur, non pas à nous, non pas à nous, mais c'est à ton nom, à ton nom donne gloire. Et si on fait des choses, les amis, pour nous, pour agrandir notre Église, pour agrandir notre nom, pour étendre notre royaume, ce n'est pas la bonne motivation. Et parfois, le cœur humain est tortueux et c'est difficile de discerner les motivations. Mais on doit être comme le roi David qui dit « Crée en moi un cœur pur et montre-moi, Seigneur, mon cœur qui n'est pas pur et pardonne-moi pour ça. » Et constamment, on revient à la croix, on dit « Seigneur, pas à mon nom, mais à ton nom, donne gloire. » Et donc porter sa croix, renoncer à soi-même, c'est aussi de dire « Seigneur, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour ton nom. » Et vous savez qu'on a le droit, vous avez le droit de dire non. Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Est-ce que tu as le courage de dire oui à ce que le Seigneur t'appelle à faire? Et est-ce que tu as le courage de dire non quand ce sont les hommes qui veulent mettre quelque chose sur toi? Alors je dis ça avec un peu de... Il faut un peu de sagesse quand même. En étant un pasteur, un berger, on doit mener les brebis. Et parfois, on doit étirer les gens. On dit, mais tu peux aller plus loin. Mais tu gardes toujours ta liberté. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais l'Église m'a épuisé, en fait. Je dis, mais qui a décidé de venir? C'est toi ou est-ce que tu as été forcé? Et il faut savoir prendre nos responsabilités, les amis, pour nos choix. On ne peut pas simplement pointer du doigt de dire ben, c'est la faute de Farid parce qu'il m'a forcé de venir. Non, tu as choisi de venir. Et il faut savoir dire non, il faut savoir prendre nos propres responsabilités. Si on joue ce rôle de c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, on ne prend jamais nos responsabilités et on ne guérira jamais. C'est ok? J'espère que c'est ok. Je dis ça au pasteur. Mais les amis, Jésus est venu pour nous libérer, on doit garder les gens libres. Mais c'est vrai qu'en rôle de berger, parfois on va dire aux gens, mais tu peux aller plus loin, je veux t'encourager à aller plus loin. Mais on ne peut jamais forcer les gens. Le quatrième point, j'ai presque terminé, c'est la fidélité dans l'ordinaire. La fidélité dans l'ordinaire. On vit dans un monde qui cherche le spectaculaire et l'extraordinaire. Et c'est bien, j'aime ça. Mais les amis, on ne célèbre pas assez la fidélité dans les choses ordinaires sur la longue durée. On sous-estime la longévité. Et votre témoignage, les amis, se construira sur la durée. C'est pas juste un moment de... Quand vous avez le micro, là, je vais faire... Envoler tout le monde, c'est génial quand ça se passe. Mais le vrai témoignage se passe dans les choses ordinaires sur la durée. En rentrant à la maison le soir, fatigué après le travail, il faut baigner les enfants, il faut faire à manger, il faut nettoyer la maison, il faut s'aimer. Et le lendemain matin, tu te réveilles, il faut préparer les enfants, aller le déjeuner, aller à l'école. C'est les choses ordinaires et Dieu construit l'extraordinaire au fil du temps. Chaque semaine, dimanche en dimanche, on se réunit, on prie ensemble, on loue le Seigneur ensemble, on se soumet à la parole de Dieu. Dieu agit petit à petit, l'extraordinaire se construit. Et la dernière chose que je veux partager, c'est la confiance dans les voies de Dieu. Et ça, c'est important parce que Jésus parle de porter notre croix, de renoncer à soi-même. Et parfois, on pense que nos voies sont plus élevées que les voies de Dieu. Et j'aimerais partager deux choses précisément. Le premier, c'est le repos. Et je pense que ça nous a sauvés, Vanessa et moi, quand on a eu, il y a une dizaine d'années. Non, c'était avant le Covid, je crois. Elle va vous dire la vérité après. Je pense qu'il y a, bon, peut-être 8 ans, 7 ans, je ne sais pas. Mais on travaillait. Moi, j'avais un travail à temps plein pendant 13 des 17 dernières années. On menait l'église, on avait 3 jeunes garçons. Donc on était extrêmement, extrêmement occupés. Il y a à peu près 7-8 ans environ, on a vraiment, j'ai lu un livre sur la santé émotionnelle, la santé mentale. J'ai lu un livre sur le sabbat, sur le repos. Et vous savez, le sabbat, prendre un jour de repos, ça fait partie des voies de Dieu. Et nous, on pense qu'on est plus fort que ça, qu'on peut y aller. Et au fait, ça nous a vraiment challengé, parce que le travail ne se termine jamais. Quand tu arrives dans ton jour de repos, tu sais qu'il y a encore, ta to-do list est encore très longue. Et tu te dis, mais mince, il faut que j'avance un peu, sinon je n'y arriverai jamais. Et c'est un vrai pas de foi de dire, au fait, je vais m'arrêter. Et ce qu'on fait dans notre sabbat, on n'y arrive pas toujours, hein, on est toujours en processus. Surtout moi, je suis très fonctionnel, mais ce qu'on essaye de faire, on y arrive bien par saison quand même, parfois un peu moins. Ce qu'on fait, on fait 4 choses pendant le sabbat. La première chose, c'est qu'on s'arrête. On arrête de travailler. Si le travail n'est pas fait, tant pis. Ça veut dire qu'on doit se préparer un peu en avant. On éteint nos téléphones. On a le luxe aujourd'hui d'être à temps plein dans l'église. Donc le lundi, c'est notre jour de repos. On coupe nos téléphones, on met en mode avion pour environ 18 heures. Parfois c'est 24 heures, rarement. Et même quand nos enfants étaient à l'école, l'école n'avait pas moyen de nous contacter. Et donc ça faisait un peu peur, c'était peut-être un peu négligent. Mais on s'est dit, Seigneur, on va te faire confiance avec nos enfants, on te fait confiance avec l'église, on te fait confiance avec tout. Et on éteint le téléphone. Et chaque fois quand on rallume le téléphone, j'avais un peu peur, qu'est-ce que je vais trouver ? Et il y a un vrai sentiment parfois d'anxiété quand on n'est pas habitué à faire ça. Quand tu coupes le téléphone, tu te dis, mais mince, au fait, il faut que je vérifie. Mais au fait, à chaque fois, fais confiance à Dieu. Donc on s'arrête. La deuxième chose, c'est qu'on se repose. Et ça veut dire peut-être dormir, ça veut dire aussi, on se repose. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Troisième chose, c'est qu'on se réjouit. On fait des choses qui remplissent notre réservoir émotionnel. Et moi, j'aime bien cuisiner. Donc, le lundi, je suis généralement dans la cuisine parce que ça me fait plaisir. Vanessa, elle est très heureuse que je cuisine. Mais c'est son travail quotidien, donc elle ne va pas cuisiner le lundi. Et donc, on fait quelque chose qui nous réjouit. On va marcher, on fait de longues marches et on s'arrête toujours à un bon café parce que le café est divin. Amen. Non, c'est une blague, pardonnez-moi. Donc, on se réjouit. On fait des choses qui nous donnent plaisir. Et la quatrième chose, c'est qu'on contemple. On contemple la gloire de Dieu. On contemple notre Seigneur. Donc le lundi, notre règle, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de l'Église. Même pas de bonnes choses, parce qu'on commence par de bonnes choses, après ça va. On n'a pas le droit de parler de l'Église. Quand on va prier, on ne va pas prier, on ne va pas demander. On va simplement prier des prières de louange et de reconnaissance à Dieu. Et c'est ce qu'on fait dans le lundi. On va marcher, on va prier, parfois on est en silence, on va se réjouir, on va boire de bon café, on va bien manger, on va se reposer et on arrête de travailler. Et les amis, ça fait partie des voies de Dieu. Si on veut être une église en bonne santé, si on veut être là sur le long terme, je pense qu'on doit respecter les voies de Dieu. Et rappelez-vous que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit ? Le sabbat, l'homme n'est pas fait pour le sabbat est fait pour l'homme. On n'est pas fait pour servir le sabbat, ça ne devient pas une loi, un poids, mais c'est là, les amis, pour nous servir. Et donc je vous recommande, si vous n'avez pas cette habitude de vous reposer, de prendre un jour de repos, trouvez-le quelque part. Même si c'est 6 heures, ou 12 heures, ou 18 heures, ou 24 heures. Confiance dans les voies de Dieu. Et la dernière chose, c'est qu'il faut savoir laisser notre passé derrière nous. Parfois on a des passés qui sont glorieux, parfois on a des passés qui sont douloureux et on doit guérir. Mais je veux te dire qu'il n'y a pas d'avenir dans ton passé. L'avenir est devant toi. Et si on reste ancré au passé, si on porte le passé comme un fardeau tout le temps, il faut savoir, avec l'aide de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la guérison, avec « Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ces chaînes qui m'enchaînent à mon passé ». Donc si on veut marcher dans la vie abondante, les amis, il va falloir pardonner. Il va falloir dire, j'ai fait de grosses erreurs. Il va falloir se pardonner soi-même. La miséricorde se renouvelle tous les jours. La grâce de Dieu est là tous les jours. Et il va falloir lâcher prise. Donc, équipé pour une vie abondante, l'émerveillement de Jésus-Christ, notre volonté à sacrifier, de porter sa croix, de renoncer parfois à soi-même, de dire « Seigneur, tu connais mieux que moi », de déposer nos couronnes, notre gloire, notre motivation, notre pourquoi, de dire « c'est pas pour moi Seigneur, mais c'est à ton nom soit la gloire ». Et je vous garantis, quand on fait ça, on va tout le temps se réjouir aussi. D'être fidèle dans l'ordinaire. Vous savez, la fidélité est quelque chose de précieux. Paul a dit à Timothée, confie à ceux qui sont fidèles, ceux qui sont fiables, ce que j'ai été confié, pour qu'eux ensuite puissent confier à d'autres. Il y a 4 générations là. Il y a Paul, Timothée, ceux qui sont fiables, qui vont confier à d'autres. Quand on cherche des leaders dans notre église, on cherche qui sont ceux qui servent de façon fidèle, qui sont fiables. Parce que c'est là qu'on va chercher. Et je vous encourage de développer cette fidélité, cette fiabilité. On est rentré dans notre église un jour en Afrique du Sud. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, je veux être quelqu'un de fiable pour mes anciens. Peut-être c'était la voix de Dieu. Je veux vous encourager de développer cette fiabilité, cette fidélité pour votre famille, pour votre église, pour votre ville. Et après, confiance dans les voies de Dieu. Et ça comprend le repos, ça comprend le pardon, ça comprend lâcher prise du passé et aller vers l'avenir. Il n'est jamais, jamais trop tard. Donc j'espère que c'est utile. Je pense que Dieu a de super projets pour vous, pour vos deux assemblées. Et vraiment, c'est un privilège d'être là avec vous.